Le Monde aujourd'hui avec Julien Corona.
Aujourd'hui à l'émission, stigmatisation des personnes vivant avec le VIH et situation en Ukraine. Bonjour à tous, un nouveau numéro du Monde d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de deux sujets assez lourds, mais qui sont quand même très intéressants dans l'actualité et pour votre information. Le premier sujet, ce sera avec Léa Pelletier-Marcotte. On va parler de stigmatisation des personnes vivant avec le VIH. Notre deuxième invité, ce sera David Dubé, membre de la chaire Raoul Dandurand. Avec lui, on va parler de la situation à la frontière ukrainienne. Est-ce qu'il va avoir une guerre du fait des agissements de la Russie ? Notre première invitée de la journée, c'est Léa Pelletier-Marcotte de la Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le sida. Bonjour Léa.
Bonjour.
Donc avec vous, on va discuter de la journée internationale de lutte contre le sida qui a eu lieu la semaine dernière et de ses répercussions qui sont continues. On a beaucoup d'histoires qui sont sorties dans les derniers jours à propos des discriminations continues pour les personnes séropositives. On parle souvent dans ces journées de lutte des progrès concernant les traitements, des progrès concernant le dépistage, l'accompagnement des personnes atteintes du virus du sida et du VIH, du virus du VIH et qui sont potentiellement aussi malades du sida. Néanmoins, on ne parle pas de toutes les discriminations à l'emploi, dans la vie, les disparités sociales et de tout ce qui entoure le contexte sociétal lié au virus. On en parle très peu, malheureusement, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Donc tout d'abord, avant de revenir sur ça, généralement, où on en est dans la lutte contre la pandémie de sida actuelle ?
On est à ce qu'on considère 40 ans de lutte, donc 40 ans depuis l'identification des premiers cas. Et on a fait d'énormes progrès dans la lutte, notamment dans le traitement, dans la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH dans les années récentes. Donc, on est passé d'une infection, d'un virus qui venait un peu avec une peine de mort.
Fatale, oui.
Et maintenant, on a des personnes vivant avec le VIH qui vivent une vie très longue et très confortable et en parfaite santé, si ce n'est que du fait qu'elles sont séropositives. Donc, c'est du moins au Québec et au Canada un luxe que nous avons de considérer l'infection VIH comme une maladie chronique.
Et on peut le voir, ça, on pourra en revenir aussi sur les disparités. Certes, il y a des disparités régionales, mais c'est aussi quand on parle en matière de disparités par rapport entre les pays où au Canada l'accès au traitement est quand même permet ce genre de choses, mais dans des pays comme en Rennes, Afrique ou dans d'autres régions du monde qui sont beaucoup moins avantagées que la nôtre, l'accès au traitement est toujours assez déficient. Donc cette évolution des traitements aussi, vous parliez de confort, c'est que maintenant, je crois qu'on est rendu avec des pilules et des traitements qui sont beaucoup moins toxiques et donc beaucoup moins dangereux aussi sur la santé au long terme de la personne.
Effectivement, donc il y a eu plusieurs essais-erreurs en termes de traitement du VIH dans les dernières années et depuis la fin des années 90, il y a eu l'avènement de la trithérapie, donc un combiné de composés actifs et on est passé de prise de médicaments de plusieurs comprimés par jour à maintenant, il y a plusieurs personnes vivant avec le VIH qui n'en font qu'à la prise d'un seul comprimé qui combine tous les ingrédients actifs nécessaires. Et même, il y a du développement au niveau des injections qui seraient une fois par alternance, voilà, une fois par mois, tout ça. Donc, il y a vraiment beaucoup de progrès. On passe aussi sous silence le fait qu'il y a du progrès au niveau des traitements, mais pour la prévention de l'infection VIH, notamment avec la PrEP. Et ça, on en parle un peu moins, mais c'est aussi une très bonne nouvelle dans le milieu du VIH.
Il y a la PrEP et il y a aussi la possibilité d'un vaccin, la COVID et les arrivées de fonds qui ont permis de rendre viable l'idée de vaccin ARN messager, qui ont permis aussi un redéveloppement de cette technologie pour lutter contre le sida et des essais sont en cours.
Oui, c'est ça. Le vaccin, c'est un peu l'espèce de rêve qu'on porte depuis plusieurs années. Des recherches ont commencé, ont débuté, ont cessé, mais c'est sûr que la COVID crée un regain d'intérêt pour le potentiel du vaccin. Mais le virus du VIH en est un qui est extrêmement sophistiqué, qui est extrêmement sournois et donc très difficile pour un vaccin de d'éradiquer, voilà.
Donc, des événements comme la journée de lutte contre le sida permettent de mettre en exergue des phénomènes connexes au diagnostic de la séropositivité. Ce qui nous intéresse donc ici, dans le cadre de notre entrevue, c'est les potentielles discriminations qu'une personne séropositive peut connaître dans la société. Donc, ma première question sur ce sujet, c'est une personne séropositive, est-ce qu'elle a la même égalité des chances qu'une personne non séropositive, séronégative ?
En principe, oui. En principe, oui, il y a pas vraiment, du moins maintenant, de fondement sur le fait qu'une personne séropositive, une personne vivant avec le VIH devrait être discriminée, ne devrait pas avoir les mêmes chances qu'une autre personne. Cela dit, en pratique, c'est pas tout à fait le cas.
C'est ça.
On voit encore des discriminations, qu'elles soient intégrées dans les politiques ou même qu'elles soient au niveau interpersonnel envers les personnes vivant avec le VIH. Notamment en matière d'assurance, c'est toujours extrêmement difficile pour une personne vivant avec le VIH, même si elle est autrement en parfaite santé, d'avoir une assurance vie. Donc, on a seulement quelques entreprises qui offrent des produits d'assurance vie aux personnes qui se savent, qui connaissent leur statut VIH positif. Et les primes sont extrêmement chères. Donc, c'est des produits de luxe, un peu un luxe pour une personne vivant avec le VIH de contracter une assurance vie.
L'autre disparité qui s'applique ici, c'est les disparités de richesse. Une personne plus riche aura plus de chances de pouvoir avoir une vie assez normale par rapport à l'accès à toutes les choses, donc l'égalité des chances. Si elle a le VIH, qu'une personne avec des problèmes financiers aussi, une personne racisée qui n'a pas accès à tous les avantages de la société, du fait de sa place dans la société, du fait de sa couleur, du fait de ses origines, aura aussi beaucoup moins de chances, en plus d'avoir le VIH.
Tout à fait. Puis c'est comme ça aussi, par exemple, on parlait d'une non-discrimination. Le VIH est la seule infection transmissible sexuellement par le sang qui est criminalisée comme elle l'est. Donc, une personne qui ne dévoile pas son statut avant une relation sexuelle qui comporte une possibilité réaliste de transmission, interprétée par la Cour suprême, est passible d'accusation criminelle. Et encore là, la décision d'aller à procès, de se défendre de ces accusations-là, ça implique aussi certaines ressources, certaines capacités de payer, soutien familial, un soutien social. Et c'est tout à fait vrai ce que vous avez mentionné. C'est souvent au niveau intersectionnel, non seulement on a des personnes vivant avec le VIH, mais la situation est d'autant plus difficile pour les personnes vivant avec le VIH racisé ou qui sont par exemple aussi des personnes issues des communautés LGBTQ, de F ou des travailleurs travailleuses du sexe.
L'autre possibilité, donc on en parlait, on revenait sur le travail, c'est par exemple, quand en préparation d'entrevue, je pouvais voir une personne qui n'avait pas dévoilé son statut séropositif. Des collègues de travail l'ont su, donc l'ont dévoilé sans demander l'autorisation à la personne. Et cette personne s'est retrouvée licenciée peu de temps après. C'est une situation à Toronto qui s'est passée le mois dernier, je crois, si je me souviens bien, à la lecture d'un article. Donc, est-ce qu'il est légal de pouvoir licencier une personne après découverte de son statut séropositif? Pourquoi ce genre de situation existe? Pourquoi c'est problématique aussi?
C'est énormément problématique et en fait, il n'y a pas. C'est difficile de répondre à la question est-ce que c'est légal ou non de licencier une personne sur la base de son statut sérologique. En fait, de licencier une personne sur la base de son statut sérologique, c'est illégal. Mais les bases que l'employeur peut utiliser,
il peut aller chercher, tourner. Il n'a pas dit ça au moment de son. Il a menti au moment de son.
Au niveau de l'embauche, il n'a pas mentionné qu'il était séropositif, qu'elle était séropositive, alors que. Poser cette question-là
n'est pas une question acceptable dans une entrevue d'embauche.
Voilà, non, parce que les seules questions qui sont acceptables, notamment celles qui concernent l'état de santé d'une personne et qui même postule au poste, donc on parle avant l'embauche, qui postule, c'est des questions qui sont liées aux exigences professionnelles justifiées.
C'est ça.
Et il n'y a pas aucun emploi qui nécessite un statut sérologique négatif et donc qui est fermé aux personnes vivant avec le VIH. Il y a des accommodements qui sont possibles dans les pratiques, notamment pour les
travailleurs de la santé, par exemple.
Infirmières, neurochirurgiens, il y a des accommodements, il n'y a pas d'impossibilité d'occuper ces emplois-là.
Moi, je vais prendre l'exemple de ma personne. Pendant la pandémie, j'avais pu faire un petit emploi dans un CHSLD afin de pouvoir aider et de vouloir m'impliquer parce que malheureusement, personne ne voulait. Tout le monde disait merci, nos anges gardiens, mais personne ne veut le faire. Et on nous demandait le statut sérologique et les accommodements auraient été faits si mon statut sérologique était séropositif. Donc, des accommodements sont possibles, mais le fait de refuser une embauche, voire de licencier la personne en cas de mensonge, c'est on va au-delà d'une discrimination négative. On est dans l'illégal total.
Voilà, et même juste pour mentionner, et même au niveau de l'employeur. L'employeur n'a pas à connaître le statut sérologique de ses employés. C'est une question qui lie l'ordre professionnel et le professionnel aussi, donc pour certains emplois. C'est toujours des questions, et surtout quand c'est des questionnaires qui viennent des établissements de santé, qui sont des établissements publics, on présume que si ces établissements-là posent ces questions, c'est qu'elles sont légales, alors qu'elles ne sont pas justifiées, justement.
Avant de revenir sur potentiellement le manque d'éducation, l'image à améliorer sur les préjugés et stigmatisations qui font en sorte que ces discriminations continuent, j'aimerais revenir sur aussi une autre discrimination qui est faite par le Canada lui-même. Donc c'est à l'entrée sur le territoire, on se rend compte qu'une personne séropositive a beaucoup de difficultés à pouvoir entrer sur le territoire canadien dans le cadre d'une visite temporaire, donc du tourisme, mais surtout aussi dans le cadre d'une résidence temporaire, voire sur le long terme, avec permis de travail, permis d'études, possiblement résidence permanente. Et ça met le Canada à l'égal de pays pas très reluisants, comme au niveau de dictature, comme certains pays non démocratiques en Afrique, des pays comme l'Arabie Saoudite, l'Iran et d'autres de ces États. Donc est-ce que c'est normal qu'un pays qui se considère comme au-delà de toutes ces discriminations, continuer à discriminer de la sorte?
C'est évidemment hautement problématique. Sur la question des séjours temporaires et de courte durée, il y a eu vraiment des assouplissements et maintenant, il n'y a pas vraiment de difficultés pour une résidence de courte durée pour une personne vivant avec le VIH sur la base de son statut. Donc déjà là, c'est assez simplifié. Après, je pense que ce qui est important surtout de connaître de ce que le Canada fait, c'est au niveau de la notion de fardeau excessif. Donc, au niveau de la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, il y a un article qui, au niveau de la demande de résidence permanente, qui pourrait exclure une personne parce qu'on considère que, en évaluant les coûts qu'elle va représenter sur le système de santé et les services sociaux, on considère qu'elle représente pour la société canadienne un fardeau excessif.
En gros, déjà qu'on considère parfois les immigrants économiques, voire aussi les immigrants regroupement familial, comme simplement des variables d'ajustement, on va encore plus pousser à outrance cette notion en utilisant la manière de fardeau excessif pour des personnes séropositives.
Et c'est pas quelque chose auquel les personnes qui ont le statut de réfugié auxquelles se confronter. Donc au moins, c'est vraiment pour les personnes qui font les demandes de résidence permanente. Et la façon dont on évalue ça, c'est qu'on va considérer, on va évaluer les frais inhérents à la personne, aux soins, aux traitements, et si ça dépasse la moyenne canadienne, on va juger qu'elle représente un fardeau excessif, et donc la personne devra démontrer qu'elle va prendre les mesures pour réduire les coûts qu'elle pourrait occasionner. Ceci dit, on a demandé, depuis plusieurs années, on demande des changements à la loi, qu'on arrête de considérer les personnes qui ont des problèmes de santé, mais qui sont autrement des personnes qui sont productives pour la société canadienne. Donc, c'est pour le VIH, mais c'est pour toute autre condition. Il y a eu des assouplissements dans l'application de cet article de la loi, mais la notion de fardeau excessif reste dans la loi, reste dans le système canadien.
Donc, ça reste problématique.
Donc, c'est très, très problématique.
Donc, ma dernière question, assez rapide pour terminer cette entrevue, c'est est-ce qu'il y a une image donc médiatique qui doit être modifiée? Est-ce qu'il y a une image et une nécessité d'éducation pour modifier, pour diminuer ces préjugés, stigmatisations qui doit être faite et comment ça doit être faite?
Oui, à plusieurs niveaux. On a beaucoup parlé du sida dans les années, mais dès lors que les nouvelles ont commencé à être meilleures, dès lors qu'on voyait que les gens ne mouraient plus du sida, du moins près de nous, on a arrêté d'en parler. Il y a plusieurs bonnes nouvelles autour du VIH, autour des personnes vivant avec le VIH qu'on ne connaît pas parce qu'on n'en parle pas. Notamment le fait qu'une personne qui suit son traitement, qui réduit sa charge virale à un certain niveau, ne peut pas transmettre le VIH de façon sexuelle. Donc, ça, c'est une excellente nouvelle, mais que peu de personnes connaissent. Et aussi, on continue donc à avoir cette image-là de très stigmatisée, très stigmatisante de la personne vivant avec le VIH, qui a des, c'est une personne qui n'est pas propre, donc on le voit sur les sites de rencontres, les applications, on a toujours le terme de clean qui revient, mais aussi dans le traitement d'affaires où le VIH est en cause, notamment dans le traitement journalistique des cas de criminalisation du VIH, où on, avant même que la personne soit reconnue coupable, on va afficher une photo de la personne, son nom.
C'est ça. Comme si c'était le criminel notoire, alors que c'est simplement juste une personne qui...
Voilà, un danger public qui est dans les rues et qui expose les personnes innocentes. Et bien souvent, ce sont des personnes racisées ou des personnes autochtones qui sont la cible de cette couverture médiatique problématique. Donc, beaucoup, beaucoup de travail à faire au niveau de la représentation des personnes vivant avec le VIH.
Merci, Mme Marcotte, d'avoir répondu aux questions ce midi.
Ça me fait vraiment plaisir.
Je rappelle que vous êtes membre de la coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le sida. Quant à nous, on se retrouve dans un instant pour notre deuxième entrevue. Notre deuxième invité, c'est David Dubé de la chaire Raoul Dandurand. Avec M. Dubé, nous allons parler de la situation à la frontière ukrainienne. Est-ce qu'il y a donc un risque de guerre avec la Russie ? Donc, tout d'abord, est-ce qu'on peut être confiant sur, dans le cadre général de ces tensions aux frontières de l'Est de l'Europe, sur une résolution de ces tensions ? Parce qu'on voit une succession depuis quelques mois entre la Biélorussie, l'Ukraine présentement, les Pays-Baltes et la Finlande. C'est un peu la série de tensions, règlement de compte à hockey choral qui est en train de se passer dans cette région.
Bah, évidemment, c'est encore très difficile d'évaluer ce qui va se passer à la frontière avec la Russie et l'Ukraine, parce que c'est évidemment la poursuite d'un conflit qui sévit officiellement depuis 2013-2014, mais qui peut remonter jusqu'à 2004, voire 1991. Donc, c'est très, très lourd. Il y a énormément de tendances lourdes en jeu, et ça va surtout évoluer en fonction de la volonté de la Russie, de l'Ukraine, mais aussi de l'Union européenne et des États-Unis de vouloir travailler ensemble, finalement.
Quand vous parlez de la 1991, c'est en fait, façon de parler, c'est une sorte de continuation des problèmes qui sont liés à la chute de l'URSS et la séparation de ces pays, et comment ces pays, au lieu de se séparer peut-être sur des lignes plus ethniques, se sont séparés sur comment les républiques à l'intérieur de l'URSS étaient organisées.
Eh bien, si on veut. Et puis, la Russie a quand même vécu le choc de la perte de l'Ukraine, au sens où ils sont pas nécessairement déçus d'avoir perdu le territoire, mais ils ont perdu l'influence sur une région très importante, et puis ils veulent nécessairement la regagner sans non plus annexer l'Ukraine. Mmh.
Comment placer la crise ukrainienne dans le contexte actuel des tensions, et surtout, en fait, où on voit de plus en plus de pays qui ne respectent pas vraiment l'ordre international qui est né de la Seconde Guerre mondiale?
Comme je disais plus haut, évidemment, du moins dans le contexte ukrainien, c'est le résultat de tensions qui n'ont jamais vraiment été résolues entre l'Ukraine, la Russie, mais aussi les États occidentaux, qui ont culminé notamment en 2014 quand la Russie supportait le camp, envahi la Crimée puis l'a annexée parce qu'elle était en support au président qui avait été sorti, Viktor Yanukovych, et puis qui voyait finalement la révolution comme un coup d'État anti-russe. Donc, qui maintenant, par la suite, est impliqué dans le conflit au Donbass, dans l'Est ukrainien, qui a fait des dizaines de milliers de morts, puis des centaines de milliers de réfugiés. Donc, c'est un peu là qu'on se retrouve avec l'échec de règlement de conflit, puis juste l'ajout de conflits par-dessus des conflits, parce que personne ne veut vraiment s'entendre, puis personne ne veut vraiment mettre de l'eau dans son vin.
Donc pourquoi la Russie, donc présentement, a amassé des centaines de milliers de troupes? Est-ce qu'on a un vrai risque d'invasion? On a pu voir une rencontre virtuelle entre Biden et Poutine cette semaine, qui a, façon de parler, un peu, pas vraiment apaisé les tensions, mais peut-être évité une escalade. Donc où en est-on dans la situation actuelle? Est-ce que l'invasion est proche ou pas?
Bon, tout d'abord, la Russie utilise ses troupes principalement pour faire pression sur l'Ukraine, mais aussi faire pression sur les États-Unis, l'Union européenne, puis l'OTAN, parce qu'elle critique évidemment l'élargissement de l'OTAN depuis les années 90 aux frontières de la Russie. Puis ça, c'est leur moyen de dire non, mais l'Ukraine ne deviendra pas finalement une planche de lancement pour des attaques ou pour une influence de l'OTAN en Russie. Et puis c'est un moyen de faire pression. Évidemment, comme en Crimée où l'annexion de la Crimée a vraiment été quelque chose qui est arrivé à la dernière minute, fin, comme dernier recours. On peut s'attendre à ce que une invasion en territoire ukrainien qui ferait cette fois-ci probablement plusieurs milliers de morts, et puis un des plus grands conflits en terre européenne depuis la Seconde Guerre mondiale, si ça venait arriver, ce serait plus qu'un dernier recours. Donc, on doit s'imaginer que c'est fort probablement pour Poutine, parce qu'on n'est pas dans sa tête, un moyen de pression, puis de négocier, puis d'amener Washington et puis l'Union européenne à la table, ce qu'il a pour l'instant réussi à faire, bien que Joe Biden est en essayant de désamorcer la situation, a quand même gardé un pied ferme, c'est-à-dire qu'il n'acceptera pas aucun bris de la souveraineté ukrainienne, le supplémentaire, puis demande toujours le retour de la Crimée à l'Ukraine.
Est-ce que Poutine a utilisé des raisons officielles pour placer ces centaines de milliers de troupes à la frontière? J'ai cru voir qu'il parlait que c'était pour des entraînements militaires, un peu dans le même style que l'OTAN faisait des entraînements militaires et navaux dans la mer, en mer Noire, proche de la Crimée.
Bien, évidemment, la question de l'entraînement militaire, c'est toujours ce que tout le monde utilise, là, comme l'OTAN utilise des entraînements militaires pour justifier sa présence dans les pays baltes ou dans la mer Noire, tandis que la Russie fait la même chose. Cependant, il y a quand même un peu une décision avouée qui est de démontrer leur intérêt envers l'Ukraine, puis de dissuader finalement un rapprochement entre le gouvernement de Volodymyr Zelensky puis l'Europe. Et l'OTAN, parce que le nouveau président depuis 2019 essaie quand même beaucoup de se rapprocher de l'Occident, puis de se dissocier des États-Unis, ce qui fait veut pas peur à monsieur Poutine, là, qu'importe si les États-Unis et l'Union européenne sont intéressés ou non à avoir un rapprochement avec l'Ukraine.
Au-delà d'empêcher un peu une sorte de goulot d'étranglement de l'OTAN autour de la Russie, quels sont les intérêts de la Russie en Ukraine? Est-ce qu'on a des intérêts économiques? Est-ce qu'on a des intérêts financiers, économiques et ou d'autres intérêts autres que les intérêts militaires et géostratégiques?
Ben justement, il y a quand même évidemment, il y a des intérêts géostratégiques. On le parlait avec la mer Noire, avec le fait d'avoir un état de tampon avec l'OTAN. Mais au niveau économique, on a l'Ukraine qui était quand même après la Russie l'état du RSS, là, ou l'état post-soviétique le plus économiquement puissant. Puis la Russie, avec l'établissement de son union douanière eurasienne ou eurasiatique, essayait de venir chercher l'Ukraine. C'est notamment l'échec de cette intégration de l'Ukraine-là qui a été, entre autres, la goutte qui a fait déborder le vase pour la crise ukrainienne de 2013 et 2014. Donc, nécessairement, il y a des incitatifs économiques, puis aussi un incitatif historique, c'est-à-dire que la Russie juge que l'Ukraine puis les États de l'espace post-soviétique sont un peu sa chasse gardée. Exactement, puis sans dire qu'ils veulent les annexer puis les réintégrer à la Russie, du moins, leurs intérêts devraient être représentés avant ceux de l'Occident dans ces États-là. Donc, seulement, ils voient ça un peu comme une trahison, puis un manque de respect aux intérêts et à l'intérêt national de la Russie.
De l'autre côté, comment les États-Unis aident l'Ukraine en ce moment dans cette situation, alors que l'Ukraine n'est pas membre de l'alliance de l'OTAN et que les pays européens aussi, certes, ils souhaitent que l'Ukraine soit défendue et autres, mais ils ont aussi des intérêts avec la Russie, principalement le gaz.
Oui, ben ça c'est évidemment un sujet relativement lourd, c'est-à-dire que la Russie fournit de l'aide stratégique, du renseignement, et puis on parlait d'augmenter peut-être l'armement, puis la présence de l'OTAN dans les pays baltes, s'il venait d'avoir une augmentation du non-respect de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Cependant, quand on parle d'une époque où c'est le désengagement américain, on sort de l'Afghanistan, on se désinvestit un peu partout parce que ça coûte cher et puis il y a une montée en puissance de la Chine. C'est pas le temps pour M. Biden de dire bon, ben moi je m'en vais en Ukraine. Ça sera pas bon pour ses cotes, ça sera pas bon pour son portefeuille. Puis les États-Unis n'ont pas nécessairement les moyens de se permettre ce genre d'activité. Puis effectivement, même pour du côté de la Russie, la question du gaz puis de la relation économique avec l'Europe, bien qu'elle soit de plus en plus indépendante, est quand même un sujet important. Ça avait fait très mal après l'annexion de la Crimée, surtout aux citoyens, aux citoyennes moyennes de la Russie. Donc, si on retourne avec une ronde de sanctions supplémentaires, c'est le rouble qui va dévaluer. C'est ces personnes-là qui vont avoir mal encore. Puis bien que Vladimir Poutine a encore une soixantaine de pourcents de taux d'approbation, c'est pas nécessairement le temps de déclencher une guerre qui va faire mal à l'électorat.
C'est ça. Et l'autre, au niveau de faire mal à l'électorat, on voit par exemple que si l'intervention militaire pour l'instant reste évaluée, l'idée de sanctions et de pression reste assez forte, voire même est demandée par tous les camps, par exemple aux États-Unis, où on parle par exemple du gazoduc Nord Stream 2, qui est un gazoduc qui doit relier la Russie Russie et l'Allemagne. On demande vraiment, si les tensions sur l'Ukraine continuent, que les États-Unis prennent des sanctions fortes sur ce gazoduc et aussi prennent des sanctions fortes économiques, ce qui pourrait encore plus faire mal aux citoyens moyens en Russie.
Oui, exactement, parce que ça coûte pratiquement rien aux Américains de décider de mettre des sanctions en place. Évidemment, si on ferme Nord Stream, malgré les incitatifs des États-Unis qui ont dit à l'Allemagne, nous allons vous aider, c'est l'Europe qui va payer plus cher que les États-Unis. Donc, Joe Biden peut pousser pour des sanctions parce qu'au final, c'est lui qui gagne, puis c'est les autres qui vont perdre. Mm. Ceci étant dit, la Russie se développe de plus en plus avec son économie avec la Chine, avec d'autres États asiatiques, puis même une économie interne qui est de plus en plus autonome. Donc, éventuellement, les sanctions vont être de moins en moins efficaces. Puis, il va falloir trouver un avenue pour négocier d'une autre façon que de mettre des sanctions, puis s'asseoir et attendre.
Dans un contexte plus général, cette absence de défense ou cette attentisme face aux potentiels risques sur l'intégrité territoriale de l'Ukraine, c'est un peu à mettre aussi dans le contexte de plusieurs pays qui semblent ne plus vouloir respecter le statu quo post-1945. Est-ce qu'une absence de défense de l'Ukraine pourrait inciter d'autres pays à abandonner ou à continuer d'abandonner le respect des normes internationales et des coutumes de la communauté internationale? Et là, je mets mes yeux sur la Chine et Taïwan.
Eh bien, je suis pas nécessairement un expert de la Chine et Taïwan. Cependant, faut comprendre que si on se met dans la façon dont, par exemple, la Russie pense, et puis plusieurs États autoritaires puissants pensent, ben, ces États-là disent généralement que la souveraineté, c'est seulement un concept qui se vaut si on est capable de l'imposer. Mm. C'est-à-dire que la Russie en a que faire des intérêts des États de l'espace post-soviétique puis des intérêts des États dans sa sphère d'influence parce que c'est l'intérêt russe doit primer parce que la Russie est la seule à même de défendre ses intérêts face à l'Occident ou face même à la Chine. Mm. Donc évidemment, ça peut toujours ouvrir la porte, mais ça ne l'a jamais vraiment fermé. C'est-à-dire que les États-Unis, quand ils ont voulu intervenir en Irak, ben la souveraineté, c'était le cadet de leurs soucis.
C'est ça, totalement.
Et si la Chine décide d'intervenir demain matin à Taïwan, ce sera certainement pas pour ou contre ce concept-là. Ça va être pour une multitude d'autres considérations économiques, stratégiques et militaires.
Totalement.
Avant le respect ou non du droit international.
C'est marrant, en tout cas, comment reste ce concept, façon de parler de la loi du plus fort au niveau de la souveraineté, ce concept un peu d'imperium qu'on pouvait retrouver au 19e siècle avec les grands empires qui imposaient leur souveraineté sur les petits États en fonction de leurs intérêts. En fait, les choses continuent, les choses continuent, on pense que ça change, mais ça reste de la même manière depuis des siècles. Merci beaucoup, Monsieur Dibé, d'avoir répondu à nos questions ce midi.
Merci à vous.
Je rappelle que vous êtes membre de la chaire Raoul Danturan et que vous êtes spécialiste de divers sujets, donc les questions en Europe de l'Est, les questions des États-Unis et de l'OTAN. Merci beaucoup d'avoir participé à notre émission.
Merci pour l'invitation. Bonne journée.
Merci à vous. C'était tout pour ce nouveau numéro du Monde d'aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour notre dernier numéro avant la trêve de Noël. Merci beaucoup à Daniel Fortin, le génie des manettes, à la réalisation. Passez une belle journée aux antennes de Radio Vert.